vous invite à trouver dans vos Bibles Matthieu chapitre 13, les versets 44 à 52. On m'a dit que je pouvais prêcher tranquillement, mais ça voudrait dire à ce moment-là que on continue la réunion dans la clôture de congrès cet après-midi, qui aura lieu d'ici tout à l'heure. C'était déjà une joie. Voilà, si vous m'entendez mieux comme ça, d'être là depuis hier. Est-ce que quelqu'un se rappelle quel est le thème de cette année et le thème du congrès? Oui, le royaume de Dieu est déjà là. Est-il visible dans ta vie? Nous venons de prendre un repas du royaume. Nous venons de chanter, d'envisager ce que Dieu fait dans nos vies. On a entendu des témoignages de la réalité du royaume. J'aimerais accomplir dans le temps qui reste ce matin deux choses. D'abord, mieux comprendre, mais c'est quoi le royaume? Et deuxièmement, vous lancer le défi, mais comment est-ce que cela devient visible dans nos vies? Alors, pour cela, si vous avez trouvé en Matthieu, chapitre 13, trois brefs paraboles. En introduction, posons cette première question parce que on peut déjà dire que d'après Matthieu au moins, on peut résumer tout le ministère terrestre de Jésus en une seule phrase. C'est d'après Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Changez d'attitude, repentez-vous », selon les traductions, car le royaume des cieux est proche. Et ça, c'est l'introduction à ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, c'est-à-dire les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Tout un ensemble d'enseignements qui résume tout ce que Jésus a apporté au peuple juif lors de son ministère sur terre, mais aussi une perspective de beaucoup plus qui nous concerne aussi. Alors, deux questions concernant le royaume. C'est quoi le royaume? Et deuxièmement, en quoi est-il proche? Parce que c'est ça le message de Jean-Baptiste. Et quand il a arrêté, quand il a été décapité par Hérode, Jésus a repris le ministère, commencé son ministère public en reprenant le même thème. Repentez-vous car le royaume est proche. Croyez-vous que Dieu règne? Croyez-vous être déjà membre de son royaume? Les thèmes du congrès, d'ailleurs, c'est que nous sommes des ambassadeurs. Et comme les ambassades, c'est justement légalement, réellement, un petit bout de terre du pays de l'ambassadeur en pays étranger. Ce qui sous-entend pour nous que si nous sommes chrétiens, nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens. Ce qui veut dire que là où je suis, si je suis chrétien, là où vous êtes, il y a une partie du royaume de Dieu. Déjà. C'est pourquoi le royaume est déjà là. Pour commencer par cela. Même si, évidemment, il y a une part du royaume, nous aspirons au règne de l'Éternel, du royaume de Christ sur terre. Les nouveaux cieux, nouvelles terres, la justice habitera où il n'y aura plus méchanceté, ni vol, ni douleur, ni larmes, ni péché, ni mort. C'est sûr que c'est là où le royaume est encore à venir, mais ça ne veut pas dire que la réalisation complète ne dit pas qu'il n'est pas déjà là. On raconte qu'un évangéliste, pendant une de ses réunions, a mis beaucoup d'accent justement sur la repentance, sur le jugement de Dieu, sur le ciel, et il a eu une grande écoute. Beaucoup de gens ont répondu à son appel, mais particulièrement un homme assis presque au premier rang, était très attentif, et pourtant il n'a pas répondu à l'appel. L'évangéliste a continué à insister, toujours l'homme n'a pas répondu. Alors il s'est dit, oh, il faut absolument que je le trouve avant qu'il parte. Donc il est allé le chercher, et dit, mais vous croyez en Dieu? Oui. Vous aimez Jésus-Christ? Oui. Et vous voulez être enfant de Dieu? Oui. Alors pourquoi vous n'avez pas répondu? Il dit, Mais pasteur, comme vous l'avez décrit, j'ai cru que voulez nous y envoyer aujourd'hui même. Et là, je n'étais pas prêt. Ce n'est pas mon but ce matin. D'autant plus que le royaume est déjà là, donc il n'y a pas à avoir peur que je vais vous envoyer au ciel aujourd'hui. C'est dans le sens inverse, le ciel est déjà là sur terre, au moins pour certains. Alors prenons le temps rapidement de définir, c'est quoi un royaume? Tout simplement, selon le petit Larousse illustré, royaume, c'est un état gouverné par un roi. Et c'est tout simplement ça, le royaume de Dieu. C'est là où Dieu règne, là où Dieu est roi. Et depuis qu'il a créé le monde, l'univers, il règne souverainement sur tout l'univers. Ou pour plaisanter un peu avec Astérix, c'est pas le petit village gaulois qui n'est pas encore soumis. Il règne partout dans l'univers, sauf là où il a laissé encore le libre arbitre à l'homme de choisir d'entrer dans son royaume, de rester sous la domination de Satan. C'est-à-dire, Dieu règne partout dans l'univers, sauf là où il y a des hommes qui le rejettent, sauf où il y a Satan et les démons encore qui ne sont pas totalement soumis, parce que pas encore jugés. Mais partout ailleurs dans l'univers, Dieu est roi et son royaume est là depuis que Dieu est là, c'est-à-dire de toute éternité. Depuis qu'il a créé les cieux, les seuls endroits où son royaume n'est pas encore là, c'est là où nous ne l'avons pas cédé dans notre cœur, dans notre volonté. Là où les gens s'opposent à son royaume. C'est pour cela que le royaume de Dieu se trouve tout proche, juste à côté et au milieu des royaumes de ce monde. Et c'est là où c'est à venir, comme on le lit dans l'Apocalypse. Le jour vient où le royaume de Dieu et le royaume de Christ seront établis partout, y compris sur la terre et dans la volonté de tous les hommes. Mais déjà, aujourd'hui, ce matin, ici, le royaume de Dieu est là, la porte est ouverte à ce royaume, et la vie dans ce royaume est réelle, nous y vivons. Tout comme si vous êtes étranger, vous êtes citoyen de notre pays, tout en habitant ici en France, mais nous sommes tous chrétiens, citoyens du royaume de Dieu, tout en ayant du coup une double nationalité avec notre pays d'origine aussi sur la terre. Alors, une deuxième question qui est importante, en quoi ce royaume est-il proche, si ce n'est pas dans le temps? C'est justement dans l'accessibilité. Le mieux, c'est de prendre rapidement un exemple. Si vous êtes invité, peut-être pas à l'Élysée, mais ce serait le cas là aussi, ou dans une énorme maison, un château, vous connaissez le propriétaire. Vous êtes invité à un banquet, d'habitude, on vous fait entrer, vous attendez dans un salon quelque part, et puis un serviteur ou le maître d'hôtel ouvre la porte du salon et dit « Ça y est, vous pouvez passer à table. » Et là, vous passez à la salle à manger où il y a tous les aliments déjà dressés, le service est prêt. C'est comme ça que le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas qu'il n'est pas encore en existence ou qu'il n'est pas encore là. Il est là, mais est-ce que nous y entrons ou pas? Sans réalité, il n'a pas attendu que nous, on traverse la porte pour entrer dans la salle à manger, pour que la table, les chaises, les assiettes, la nourriture soient là. Non, tout était là et tout nous attendait. Mais il fallait franchir la porte pour y entrer, tout simplement. D'où l'exhortation, l'invitation. Comment on franchit la porte? C'est repentance, repentez-vous, changez d'attitude, reconnaissez en Christ celui qui nous réconcilie avec Dieu et on entre dans le royaume. Cela nous oblige à penser au royaume de Dieu d'une toute autre manière, n'est-ce pas? Et pour citer un auteur que j'apprécie énormément, la traduction de son livre en français va peut-être sortir un de ces jours, Dallas Willard. Cela nous oblige à penser le royaume de Dieu d'une toute autre manière, parce qu'en fait, les domaines sociaux, politiques, le cœur humain sont les seuls endroits de la création, comme je l'ai déjà dit, où Dieu permet que sa volonté efficace soit absente. Car en fait, le royaume de Dieu sur terre, c'est le sur-terre du Notre Père. Qu'est-ce que nous disons justement quand nous prions? Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Oui, dans le ciel de Dieu, sa volonté est toujours faite, sans discussion, sans opposition, sans problème. Mais quand on demande à ce que son royaume vienne sur terre, en fait, la prière se retourne et nous concerne. Parce que si je le demande, est-ce que je suis prêt à faire sa volonté? Parce que c'est là que cela se fait sur terre. Alors, en quoi le royaume nous touche-t-il de très près aujourd'hui? C'est déjà dans notre propre cœur, dans notre volonté, dans notre manière de vivre. Et ce n'est pas pinailler, justement, en prenant le Notre Père. Certaines traductions, c'est un peu dommage, parce que, par exemple, le second 21, que j'aime beaucoup pour certaines choses, il y a d'autres que j'aime pas du tout. La tournure Notre Père céleste enlève toute la puissance de ce que Jésus a dit. Parce que quand nous disons Notre Père qui es aux cieux au pluriel, que disons-nous? Notre monde moderne, on est tellement contaminé par le scientisme, par l'humanisme, par le rationalisme, par le matérialisme, que quand nous prions Notre Père céleste, on dit, oh là là, il est au-delà des années-lumière de notre univers. Et puis son règne, c'est pas encore là. Donc c'est, en fait, on dit Notre Père qui est très très loin et qui viendra peut-être dans un millénaire ou deux ou trois. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit, et ce n'est pas comme ça qu'il nous a pris à prier. Quand nous disons Notre Père qui est aux cieux, il faut savoir que les Juifs avaient trois cieux, tout simplement, pas plus. Il n'y avait pas de septième ciel pour le Juif. Premier ciel, c'est quoi? C'est l'air que nous respirons, c'est là où il y a les nuages, le vent, là où les oiseaux volent. Notre atmosphère, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est quoi? C'est tout le reste de l'univers. Là où sont les étoiles, les planètes, la lune, le soleil, etc. Et puis le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. Alors, quand nous disons Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que demandons-nous vraiment? Que dans notre ciel à nous, dans notre terre, nous demandons que Dieu manifeste son royaume. Quand nous demandons, et il suffit de réfléchir quelques instants, quand nous prions, Dieu répond-il où? Dans son ciel à lui? On ne le verrait même pas, la réponse. Dans l'univers? Ben, on ne demande pas à ce que la planète s'aligne mieux ou des choses comme ça. On demande à ce qui vient dans notre ciel à nous. Et si vous regardez partout dans la Bible, là où Dieu est intervenu, là où il y a les miracles, les délivrances, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer, la traversée du Jourdain pour Israël pour entrer dans la terre promise, les miracles d'Élie, là où Jésus a agi, là où Dieu répond à nos prières, c'est où? C'est dans notre ciel à nous. Le royaume de Dieu est vraiment là. Si nous sommes ses enfants. Et c'est là où justement, du coup, ben, est-ce que son royaume est visible dans notre vie? Je ne vais pas pouvoir répondre à toute la question de comment le manifester ce matin, mais je veux vous donner juste une amorce très rapide par ces trois paraboles. Parce que comment vivre dans son royaume? Quelle valeur le royaume de Dieu a-t-il pour nous? Est-ce que nous le voyons même si nous y sommes dedans, en tant que chrétiens. Je rappelle une petite règle d'interprétation pour les paraboles. C'est une image que nous pouvons comprendre qui illustre une vérité divine, une réalité de Dieu. Voilà trois paraboles du royaume où il faut surtout chercher à demander quelle est la comparaison avec le royaume et l'histoire que Jésus raconte. C'est quelque chose de très terre à terre. Nous allons le voir. Lisons le premier de ces trois paraboles, au verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Pas compliqué à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de détails. On ne sait pas pourquoi l'homme était dans le champ. Est-ce qu'on l'a employé pour cultiver? Est-ce qu'on lui a demandé de creuser un trou? Ou est-ce qu'il se promenait et coupait à travers champ et il bute sur un trésor? Et même aujourd'hui, les choses sont pareilles. Il trouve un trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il l'empoche et il part avec. Ben, il va être poursuivi. Il a volé. Alors, il le cache et il fait tout son possible pour acheter le terrain sur lequel est le trésor. Parce que comme ça, il en devient le propriétaire légitime. Et là, il peut l'embarquer parce que c'est à lui. Mais quelle est l'importance? En quoi le royaume des cieux est semblable à ce trésor? Combien de temps avons-nous mis avant et peut-être en traversant le champ, jour après jour après jour, en ayant entendu la parole, en ayant grandi dans une famille où les parents sont ou étaient chrétiens, avant qu'on bute dessus, oh, ça c'est important! Est-ce qu'il y a même peut-être certains qui n'ont pas encore trouvé que c'est un trésor, mais oh, c'est quoi ce truc au milieu du champ qui me casse les pieds chaque fois que je traverse? Ou en parlant de l'évangile qui nous casse les oreilles chaque fois que quelqu'un en parle? Le royaume des cieux pour nous est-il comme ce trésor où on reconnaît sa valeur et on dit « Ah ça, il me le faut plus que toute autre chose » parce que ça ne dit même pas dans la parabole combien ça a coûté ce champ. Mais en tout cas, l'homme, il a fait tout le nécessaire pour l'obtenir. Et on ne sait pas combien il a liquidé, s'il a vendu sa maison, son propre terrain pour avoir ce champ-là. Ce n'est même pas exprimé, mais l'important dans l'image, c'est tout simplement qu'il a vu la valeur du trésor et il a tout fait pour l'avoir. Le deuxième parabole, par sa répétition, renforce encore plus la leçon. Lisons le vers suivant. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Répétition, deux choses d'une énorme valeur, le trésor et cette perle unique. La différence, là c'est quelqu'un qui sait évaluer la valeur, qui est à la recherche même. Est-ce que ça fait un moment que vous avez cherché Dieu et que quand vous avez entendu l'évangile, ah oui, enfin c'est ça? Ou peut-être même sans trop l'avoir cherché quand vous l'avez entendu, ah oui, ça il me faut. Que fait le marchand de perles? Il ne dit pas, ah chouette, là je vais m'enrichir 10 fois plus parce que cette perle-là, je vais la revendre. Non, ça dit qu'il liquide son entreprise. Il vend toutes ses autres perles, il arrête son commerce. Parce que c'est clair que dans cette parabole, il achète la perle pour l'avoir. Lui, il ne va pas en mettre en vente. Même si ça peut lui rapporter 10 fois plus que tout ce qu'il possédait jusque-là. Vous voyez le parallèle entre les deux paraboles? Le royaume des cieux pour nous, est-il comme ce trésor? Est-il comme cette perle? Qu'il nous faut tout ça? Ou rien. Tout ça, où je meurs, ça, plus important que n'importe quoi d'autre dans ma vie, quel que soit notre âge, quelles que soient nos autres priorités. Voilà l'importance de la répétition dans ce passage. Mais Jésus nous dit dans ces deux paraboles-là, que le royaume de Dieu, pour celui qui sait le reconnaître, a plus de valeur que n'importe quoi d'autre dans ce monde. Et il y a un missionnaire qui a été tué dans les années 50 en Équateur, qui dans son journal intime avait dit un jour, Celui qui donne ce qu'il ne peut jamais garder pour obtenir ce qu'il ne peut jamais perdre, celui-là n'est pas bête du tout. Que dit Jésus? Celui qui veut garder sa vie va la perdre, mais celui qui donne sa vie pour marcher avec Christ, pour se trouver en lui, reçoit la vie éternelle qu'il ne perdra jamais. Est-ce vraiment le cas pour nous si nous sommes citoyens du royaume? Si nous ne l'avons pas fait, nous ne sommes même pas encore citoyens du royaume d'ailleurs. Mais si nous sommes citoyens du royaume, est-ce que nous avons oublié ce qui a toute sa valeur pour nous laisser disperser dans tout ce que le monde propose, au point où les gens ne voient même pas que nous sommes citoyens du royaume? Là, je vous laisse la troisième parabole qui a un message un peu différent, qui nous met tout à fait dans notre contexte d'aujourd'hui. Le royaume des cieux, versets 47 à 50, lisons. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, c'est différent, tout en étant semblable. Les détails sur la fin du monde, sur les différents jugements, le jugement pour les récompenses du chrétien, le dernier jugement pour les non-croyants, ça on a des détails bien plus clairs ailleurs. Là aussi, retenons l'image, c'est que dans ce monde, et même d'ailleurs dans l'Église ce matin, sommes-nous tous vraiment enfants de Dieu? Dieu le sait, chacun de nous le sait pour nous-mêmes, mais je ne peux pas le dire pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'on ne sait pas. Et le jour vient où justement le filet qui ramasse et tout, Dieu fera le tri. Mais ce qui est clair dans cette parabole, c'est que c'est trop tard pour se déterminer. Il y a le tri déjà fait par le filet qui ramasse. Et où on est bon, où on est jeté au feu. Mais que c'est maintenant que cela se détermine pour qu'on soit dans ce que Dieu garde. Comment le manifester, ce royaume, dans notre manière de vivre, comme justement les deux paraboles sur les trésors le soulignent? Est-ce qu'on manifeste dans nos choix, dans notre manière de vivre, que Dieu est plus important que toute autre chose, que parce que Christ est là qui nous a rachetés, que comme Paul écrit aux Corinthiens, c'est l'amour de Christ qui le contraint à répondre, à considérer que si un est mort pour tous, nous sommes tous morts, mais il est mort pour nous tous, pour que nous soyons à la vie. Et c'est ainsi la conclusion qu'il nous a donné la vie pour que nous puissions vivre pour lui. La conversion véritable, c'est pas juste dire « Ah, un jour, j'ai donné mon cœur au Christ. » Mais si nous sommes enfants de Dieu, la vie continue, la vie grandit, la vie se manifeste. Nous avons notre identité qui devient de plus en plus claire. Si nous sommes citoyens du royaume, normalement, c'est visible qui nous sommes. Ou peut-être on doit nous poser la question, est-ce que je suis vraiment encore enfant de Dieu? Il ne suffit pas de dire que le royaume des cieux, c'est dans notre cœur. Oui, Christ nous habite, le Saint-Esprit nous habite. Dieu même dit que chacun de nous est devenu le temple de Dieu et que nous tous ensemble, comme on en a déjà parlé ensemble, nous sommes l'Église, son Saint-Temple, chacune de nos pierres vivantes. Mais, justement, est-ce que c'est visible cela? Ou est-ce que nous sommes encore en dehors du royaume? Pouvons-nous vraiment vivre au quotidien, comme d'ailleurs les témoignages l'ont exprimé? La promesse tellement réelle de rechercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice, que nous chantons souvent et que la suite dit, et tout le reste, c'est-à-dire manger, boire, toit sur la tête, de quoi porter, Dieu, notre Père céleste, sait de quoi nous avons besoin. Il pourvoira. Alors qu'il dit que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, évidemment, ils ont raison de se préoccuper de ces choses-là parce que personne ne va le leur donner. Si je suis citoyenne du royaume, Dieu règne dans mon cœur, mais il doit régner dans ma vie. Il doit régner d'une manière visible dans ma manière de vivre autour de moi. Et toutes ces autres choses sont des manières pour le manifester. Dieu ne le demande pas à nous tous, mais il pourrait le demander. Est-ce que le prix du royaume peut être de tout laisser derrière nous et partir là où Dieu nous amène? Il a déjà demandé à pas mal de monde. Abraham, Isaac, Jacob, l'apôtre Paul. Il peut nous le demander à nous. Mais même si nous ne bougeons pas de là où nous sommes, il nous demande de commencer à vivre pour lui, à vivre dans son royaume réellement. Que sa volonté soit faite dans ma vie, dans votre vie. Et là, elle se fait sur terre, en attendant le jour où la promesse s'accomplira, que la connaissance de Dieu recouvrira la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Ça, c'est le parti royaume à venir. Mais en attendant, nous vivons dans son royaume. Soyons ambassadeurs, cohérents, clairs, visibles, que nous sommes citoyens de son royaume, à sa gloire.